Bonjour à tous, bienvenue sur CCC en léger différé d'une semaine peut-être puisqu'on a eu quelques problèmes techniques. Donc a priori nous sommes non pas le 5 mais 5 et 7, aidez-moi.
12
Merci. Et même pas en première scientifique. Nous sommes le 12 avril 2017, on s'excuse pour eh bien, ces problèmes techniques que nous avons eus la semaine dernière. Le 5, c'est un peu schizophrène comme exercice. Alors à moins qu'on nous entende entre-temps, enfin bref. Bonjour, CCCC, c'est difficile à dire, c'est CCCC numéro 43 et autour de la table, plusieurs chroniqueuses et chroniqueurs. Bonjour Louise.
Bonjour.
Lycéenne en terminale ES. Ensuite Liam. En Bonjour. Seconde, c'est un petit genou. Oui, c'est pardon, vrai. Tout à l'heure j'ai dit, enfin il n'y a pas tout à l'heure, pardon, puisqu'en fait il n'y a que maintenant. C'est une émission un peu X-Files. En fait, il s'est passé des trucs dans le studio avant. Enfin bon, bref, chers auditeurs, nous avons même eu droit à d'excellentes imitations de Tiedel en coulisses, et s'il le veut bien, nous vous les proposerons tout à l'heure. Donc le jeune, très jeune Alexandre en seconde, et le jeune... Liam, pardon, le jeune Alexandre, on va y arriver.
Oui, oui, je suis en première. Donc
il y en a un qui est en première. Voilà, nous sommes à Pékin, il fait moins 15, et nous sommes le 18 avril 2019. Mais à part ça, tout va bien. On a perdu un peu nos repères, là nous avons un peu perdu nos nerfs depuis 40 minutes dans ce studio, mais tout va aller bien, l'émission va se passer de manière tout à fait sereine. Donc Alexandre en première scientifique, Marius en
Bonjour.
Première économique et sociale, il côtoie... Et c'est un exploit à soi tout seul. Louise, plusieurs heures par semaine. Nous avons ensuite le jeune...
En fait, non, elle est en terminale.
Je pense que... Baptiste, à qui je dis bonjour. Bonjour à tous. Baptiste voulait faire le lancement, mais je crois que je vais lui laisser la voix. Bonjour Baptiste.
Bonjour à tous.
Il a failli côtoyer Louise. Non, il a échappé à ça, mais c'eût été un plaisir. Monsieur... Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Il est en première également, Alyosha. En première littéraire, les meilleurs.
Oh oui.
Nous avons le Jérémy de première ES. Alors lui, il côtoie pas non plus, tu Louis. En revanche, il côtoie Marius, qui est pas mal non plus. Et enfin, the last but not the least, comme on dit en mandarin, le jeune Tiedel, imitateur, futur diplomate, ministre, canteloup et ministre confondu, enfin un nouveau métier. Est une fusion de tout ça. Voilà, alors, tu as lancé le premier sujet, c'est très bien, on va parler politique, on parlera juste après d'un fait divers, ça s'appelle comme ça hélas, assez scandaleux qui s'est passé pendant les vacances de février du côté de Cannes, c'est Nice Matin qui rapportait ça, un monsieur d'une quarantaine d'années, éducateur sportif de son état, mais qui était dans ses loisirs personnels, qui, après le sport, prend sa douche et qui voit quatre jeunes gens débarquer dans les vestiaires et le tabasser de manière très violente. Il n'a pas compris pourquoi, sinon qu'ils ont quand même crié « ça ne se fait pas de prendre sa douche devant tout le monde ». Je rappelle, c'était une salle de sport. Est-ce que derrière, il y a de l'intolérance ? Probablement. De la pudeur, sans doute, mais est-elle bienvenue ? Je vous poserai la question, chère chroniqueuse et chers chroniqueurs, et peut-être même quelques pseudo-rapports religieux invoqués, alors qu'aucun texte religieux, a priori... n'empêche ce genre de pratique hygiénique, je dirais. Nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons du lever de drapeau et du retour à l'uniforme à l'école française métropolitaine, puisque ça existe dans pas mal de dom-tom français. Est-ce que c'est ringard ? Est-ce que c'est fédérateur ? Nous verrons ça ensemble. Et puis, nous parlerons de Kylian. J'ai donné ça dans les ordres, mais ça n'est pas grave. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Nous sommes à la fois le 5 et le 12 avril. Eh bien, nous parlons de ce jeune Kylian qui a failli commettre l'irréparable et qui a eu ce geste fou dans son lycée, un jeune homme de votre âge. La faute aux institutions, à l'école qui n'a pas vu ce mal-être, à ses parents, aux réseaux sociaux, à ses camarades. Nous essaierons de répondre à cette question-là. Donc, le débat hier, vous vous êtes couché un peu tard, je crois. Vous avez tous regardé le débat ? Vous avez tous regardé le débat. Alors moi, je connais déjà la réponse qu'on l'a entendue en coulisses, hein, mais vous non, chers auditrices.
Oui,
auditeurs.
Oui.
Oui.
Est-ce que tout le monde a regardé jusqu'au bout ?
Non.
Non.
Alors,
non,
mais moi, j'ai Tiedel, non. Alyosha n'a pas de télé.
Non. Non.
Ah.
Mais il a des podcasts, des ordinateurs.
Oh, non, mais ça va, par contre. C'est... Non,
quel
non,
rapport
non.
avec les grands-parents ? Bon, bref, tu n'as pas pu regarder.
Chaque fois que je vais ici, j'évoque un membre de la famille, c'est reparti, là.
Oh, je voudrais pas dire, mais Louise, l'avant-dernière fois, a évoqué quelqu'un, non pas de sa famille, mais peut-être bientôt, enfin bref.
Oui,
nous nous souvenons d'un ami proche, on va dire.
Clovis.
Qui s'appelle Clovis. Après Jérémy, Clovis.
Quoi ?
Quoi ?
Ah non, pardon, non, pardon.
Attendez, quoi ?
Je ne lance aucune rumeur, pardon pour cette ambiguïté. Je sens que cette émission est partie pour être totalement surréaliste. Je voulais dire, bêtis. Après le prénom, Jérémy est assez original, en fait, moins que Clovis. En fait, il n'y avait aucun rapport dans ma phrase. Mais non, Louise ne connaît que Clovis de manière personnelle. Jérémy est un simple camarade de classe. Attention, parce que là, après, les réseaux sociaux, on en parlait, vont s'engager.
Ça va donner des...
Vous allez me contrarier pendant toute l'émission.
Oui.
C'est parti pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat ? J'entendais tout à l'heure Baptiste, hors antenne, et donc il va nous dire ça, s'il le veut bien, au micro, en première intervention, qu'il avait trouvé qu'il y avait du fond. Malgré les 11, est-ce que c'était pas trop cacophonique ? Tu as trouvé que non. Chacun avait, malgré la 1 minute 30, le temps de s'exprimer.
Oui, franchement, il y a eu pas mal d'idées qui ont circulé. Enfin, après, c'est sûr que c'est pas dans les détails, mais c'est pas possible. Mais la majorité des détails, enfin, comment dire ? La base des programmes, en tout cas, ont pu être comprises par l'ensemble des Français, je pense. Parce que déjà, ils se sont forcés, les candidats, ils se sont forcés de parler assez vite, pendant 1 minute 30, surtout Philippe Poutou, qui enchaînait 10 mots à la seconde. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant au final, plus intéressant que le premier débat, même si je ne l'avais pas vu en entier. Et voilà.
Ça faisait un petit contraste sympathique entre le rythme de M. Lassalle la plupart du temps et le rythme de M. Poutou la plupart du temps. Monsieur Poutou, pardon. Poutou, c'était un professeur de français quand j'étais jeune et beau, mais c'était avant. Ça n'a rien à voir. Siedel.
Bon, moi, j'ai regardé ce débat. Je vais pas regarder jusqu'au bout parce que j'ai trouvé que la fin...
C'était trop ennuyeux pour toi, alors, si tu as décroché avant. Trop long.
J'ai trouvé que la fin manquait d'intérêt. Et puis surtout, bon, tout ce qui pouvait être intéressant a été dit, je pense, dans la première partie. Au contraire de l'autre débat, parce que l'autre débat, c'était plus, la fin était plus intéressante que le début, là c'était plutôt l'inverse. Ceci étant, bon, moi ce que j'en retire, c'est que j'ai quand même trouvé Marine Le Pen, comme lors de l'autre débat, faible dans son argumentation. Elle a été très mauvaise, comme dans l'autre débat, et d'ailleurs ça n'empêche pas ses électeurs de voter pour elle, donc c'est pas grave, elle peut être aussi mauvaise qu'elle veut, les gens votent quand même pour elle. Mais moi j'ai trouvé que elle avait aucun chiffre à citer, ses raisonnements étaient complètement abracadabran, et d'ailleurs François
abracadabran peut-être
abracadabran,
c'est ce que je dis,
il n'était pas vraisemblable, et donc d'ailleurs François Fillon le lui a rappelé quand il a dit tout votre programme se base sur la sortie de l'euro, mais vous voulez faire un référendum pour sortir de l'euro.
Désolé, Tidal, ton micro en fait marche pas.
Ah, d'accord.
Je m'en rends compte.
Oui, c'est désolé.
Malgré les tests.
Bonjour.
On commence depuis le début.
Ouais. Ah bah oui, je veux bien que tu parles dans le micro, Louise.
Ah oui, d'accord. Ah, bah oui, ah effectivement. Oui. D'accord. Oui, bah c'est peut-être de ma faute alors.
Faire un montage, c'est pas la peine.
Parce que.
Ah si, du coup, il faut que je commence.
Ah,
oui.
Ah bah du coup, je recommence alors.
Non.
Ça n'a pas été enregistré, donc oui, il faudrait que tu répètes l'essentiel. Donc Tiedel, après Baptiste. Baptiste, donc, a trouvé ça plutôt avec du contenu.
On va jamais y arriver.
Et Tiedel, toi, tu trouvais ça un peu long, notamment dans la deuxième partie.
Comme vous, avec le rodage, je vais pouvoir faire de plus en plus court. Donc j'ai trouvé Marine Le Pen faible dans son argumentation. J'ai trouvé que François Fillon m'a surpris, honnêtement. J'ai trouvé que je pensais qu'il serait moins bon. J'ai trouvé bon, il est resté calme tout le temps. Il a su éviter, avec un peu plus de brio que Marine Le Pen, les sujets qui fâchaient. Enfin, les sujets qui fâchent toujours, d'ailleurs. Benoît Hamon a été très effacé. Jean-Luc Mélenchon, bon, a été égal à lui-même, c'est-à-dire un peu dans la surenchère.
C'était juste un terrain. Après, c'est que des sondages faits juste après.
C'était
mais
celui qui a gagné.
C'est celui qui est le premier ce matin,
oui.
Selon le.
Enfin, oui, enfin, attention, parce que c'est des
qui
sondages
a gagné
qui
au sens de convaincant.
Oui.
Et,
voilà. Et puis c'est des sondages qui sont faits sur les gens qui ont regardé le débat. Donc il y a peut-être plus de parce que bon.
C'était déjà le cas la première fois sur TF1. C'est aussi celui qui était sorti premier.
Oui, mais ça m'étonne pas parce qu'il est charismatique. Mais bon, je veux dire, c'était un peu. Bon, il est un peu dans la surenchère. Emmanuel Macron était le seul qui avait des chiffres à citer, qui a été précis dans son programme, qui a dit la CSG va diminuer de temps pour le temps
de l'économie. Ceci explique cela.
Ah bah oui, ceci explique
cela.
Ce
que certains lui reprochent d'ailleurs d'être l'héritier.
Oui,
de
mais enfin, ceci explique cela. Mais bon, les autres feraient bien. Moi, j'aimerais bien entendre comment Marine Le Pen chiffre son son programme ou même comment Benoît Hamon chiffre son programme. Parce que pour l'instant, Madame Le Pen, François Fillon l'a dit d'ailleurs, 160 milliards de dépenses en plus et puis des baisses d'impôts attirent l'arigot. Et puis en plus, elle va réduire les déficits. Donc je ne sais pas comment elle va faire. Donc bon, au moins, moi j'ai apprécié qu'il ait été précis sur les chiffres et puis sur sa vision de la société dans la deuxième partie avec des propositions pragmatiques et pas impossible à mettre en œuvre, je pense.
Elle va limiter, voire supprimer les aides sociales pour les étrangers, renvoyer les immigrés clandestins, je la cite, in extenso, et elle va lutter contre la fraude fiscale.
Oui, alors,
c'est comme
ça
qu'elle finance tout
sauf que selon elle, ça rapporte 60 milliards d'euros, mais aujourd'hui, le coût de l'immigration en France, c'est entre 80 millions et 400 millions, en gros. Donc je ne sais pas comment elle va faire pour faire autant d'économies. Mais bon, après... peut-être qu'elle va sortir une baguette magique qui va lui permettre de transformer.
On a bien compris que Marine Le Pen ne t'avait pas convaincu.
Voilà, contrairement au ministre de l'économie.
On a aussi compris ça. Oui, Baptiste, de nouveau.
Donc je suis totalement d'accord avec toi sur la piètre performance de Marine Le Pen. Elle n'a vraiment pas su se défendre et, comme tu disais, éviter les sujets qui fâchent. Après, François Fillon, je l'ai trouvé aussi. Totalement sur sa réserve, c'est normal, mais je trouve qu'il a pas été intéressant. Enfin,
non.
Il a juste été là, il parlait, il disait ce qu'il avait à dire, mais c'était vraiment pas. J'ai trouvé assez effacé. Et au contraire, Benoît Hamon, j'ai trouvé plus incisif, plus agressif que d'habitude. Et donc, il était pas du tout effacé.
Notamment quand il a dit à Madame Hôtel-Krieff, attention avec votre police du temps.
Mais
qu'elle voulait l'interrompre.
Enfin, quand je dis effacé, c'était pas le bon mot. C'était plutôt sur le programme. On n'a pas beaucoup. J'ai toujours pas compris comment Benoît Hamon allait mettre en œuvre son programme. Hein, ça.
Ouais, c'est sûr.
Par contre, il y a pour d'autres candidats, je l'ai compris.
On a compris.
Louise.
Ah, je l'ai pas regardé. Moi, j'avais pas le temps.
Ah oui, toi, tu es interne. Enfin, ouais, je crois que les internes avaient un accès jusqu'à 22h30.
Je devais travailler, du coup, j'ai pas
c'est
pu
ce qui
regarder.
A été dit, je crois, hors micro, puisqu'aujourd'hui, on sait plus très bien ni quel jour on est, ni où on habite, ni qui a dit quoi quand. Mais je crois qu'on n'était pas à l'antenne quand tu nous avais dit ça. Que les internes avaient eu autorisation par la CPE jusqu'à 22h30. Après un suppôt et au lit. Alors, le jeune Antoine.
Moi, je vais bien revenir sur ce que vous avez dit sur Marine Le Pen. J'ai trouvé que...
Thiède, elle a dit.
Parce que Thiède, elle a dit.
Et Baptiste.
J'ai trouvé que c'était plutôt M. Dupont-Aignan qui explicitait les idées de Mme Le Pen hier.
Oui.
Parce qu'ils se ressemblent un peu. Et du coup,
ils étaient souvent d'accord, tu veux dire.
Ah, ils sont d'accord. Et le fait que ce soit un débat à 11, justement, ça a enlevé les idées des cinq principaux candidats qui étaient là chez TF1. Mmh. Et ça faisait plus ressortir les six autres candidats, donc j'ai trouvé ça intéressant.
C'était un peu le but, ça a plutôt bien fonctionné pour ça. La plupart des commentateurs l'ont dit en effet, que du coup ces six-là étaient plus incisifs, avaient moins de risques aussi à prendre que les autres.
Ouais,
parce
oui,
que bon, a priori, voilà, ils sont peut-être pas dans les trois starting blocs final, à l'arrivée finale plutôt. Oui, Alexandre.
Oui, justement, Antoine, pour réagir avec ce que tu disais sur Monsieur Dupont-Aignan, c'est vrai que. C'est celui qui se rapproche clairement le plus de Marine Le Pen et je pense que c'est la première fois que le FN a une aussi grande réserve de voix potentielle aussi pour un deuxième tour qui pourrait, enfin, 5-6%, ce qui est, enfin, pour un petit candidat assez conséquent et sans faire pencher la balance en sa faveur au deuxième tour, je pense que ce sera un électorat qui ira plus vers Madame Le Pen que... Que
cette réserve de voix, elle risque aussi de fluctuer en fonction de qui sera en face d'elle. Hein. C'est ce que si de nombreux sondages disent.
Oui,
ça peut être plus ou moins grande, cette réserve.
Oui, et en plus, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandre. Et en plus, je pense que c'est d'autant plus vrai que si Dupont-Aignan fait un bon score, il y a beaucoup de chances pour que François Fillon ne soit pas au second tour et que ce soit Le Pen contre Macron au second tour.
Là aussi, il y a un principe de base communicant.
Parce que, bon, d'ailleurs, François Fillon s'est écharpé 2-3 fois avec Nicolas Dupont-Aignan parce qu'il sait très bien que 2 points de plus pour Dupont-Aignan, c'est 2 points de moins pour Fillon qui peuvent l'empêcher d'arriver au second tour. Donc si Dupont-Aignan fait un bon score, c'est a priori que Fillon n'est pas au second tour et du coup, ça veut dire que... effectivement, c'est des voix qui vont plus se reporter sur Le Pen parce que comme ce sera Macron en face de Le Pen si Dupont-Aignan fait un bon score, il y aura sûrement pas d'hésitation effectivement entre Macron et Le Pen.
Au moment où on parle, donc le 5 avril, puisque l'émission est exceptionnellement enregistrée, tous les sondages avec toutes les précautions qu'on va mettre plus que jamais dans cette élection sur les sondages, annonce quand même au second tour le match que tu annonces toi-même, Le Pen-Macron.
Le Pen-Macron, mais ceci étant...
Mais toi, tu sembles être plus sceptique par rapport à...
Bah, je suis sceptique. Non, je pense,
Fillon qui pourrait être à la place de l'un des deux.
Je pense que, honnêtement, je pense que François Fillon a encore autant de chances de gagner qu'Emmanuel Macron. Je ne dis pas qu'il y en a un des deux qui n'en est pas. Je ne dis pas que Macron n'a pas de chance de gagner ni que Fillon n'en a pas. Mais je pense que Fillon peut encore largement l'emporter grâce au vote caché, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un vote caché, mais le vote de dernière minute qui se fait dans les urnes, des gens de droite modérés, mais qui se disent quand même on ne va pas voter pour un ancien ministre socialiste au dernier moment. Et puis aussi, les petits candidats, si M. Dupont-Aignan ne fait pas un bon score, ça veut dire que M. Fillon risque de faire un meilleur score. Et puis il y a aussi le fait que l'électorat d'Emmanuel Macron est volatile, et ça c'est inquiétant. Enfin bon, c'est inquiétant, je parle pour moi, mais et ça c'est inquiétant parce que ça veut dire que effectivement, il risque de se reporter sur François Fillon. Voilà. Mmh. Par contre, juste une dernière chose, je pense que l'électorat de Hamon est volatile aussi. Et là, je pense que ça peut être un vrai avantage pour Emmanuel Macron, parce qu'au dernier moment, des gens de gauche risquent de se dire dans les urnes, j'espère qu'ils iront pas dans les urnes, dans l'isoloir, de se dire quand même, je sais pas pour qui je vais voter, mais on va quand même voter utile, on va voter Macron.
Faut pas être trop gros pour rentrer dans l'urne.
Oui, c'est
malheureusement il y a d'autres urnes, mais c'est plus tard dans sa vie.
Oui.
Là, on n'est pas très gros, mais on est un peu. Bon, bref. Vous m'avez compris. Baptiste.
Je te rejoins sur.
Ah bah, ça s'appelle comme ça, Jérémy.
Oui, c'est vrai.
Là, on peut plus voter. C'est trop tard à ce moment-là. C'est des urnes funéraires.
Effectivement.
Voilà, je te rejoins totalement sur l'électorat volatile de Benoît Hamon qui pourrait se mettre sur Macron. Par contre. Que Fillon gagne des voix dans l'isoloir, qu'on dise que finalement c'est peut-être lui l'alternance et que ces histoires c'est pas si grave. Je pense pas que ce soit vrai parce que voilà, c'est des sondages comme toujours. Sauf que quand il pose la question aux Français quelle est selon vous la qualité principale à avoir d'un président, ce qui revient majoritairement c'est être honnête et enfin je veux dire ne pas être dans les soupçons.
Mais lui il aime sa femme donc tout est réglé.
C'est être honnête et ne pas être dans les affaires, donc c'est vrai que ça discrédite pas mal Fillon. Et du coup pour moi c'est sûr que Macron a quand même plus de chances que Fillon, même si pour moi ça sera aucun des deux face à Le Pen.
Moi je pense que
j'ai pas compris ta conclusion, pardon.
Je pense qu'il y aura pas ni Macron ni Fillon au second tour.
Tu crois? Penses que ce sera Mélenchon?
Je pense que Mélenchon peut être en fait il est déjà en
il monte ça c'est sûr
il est en bonne il sort sur la vague comme on dit et je pense que ça s'est confirmé au débat hier comme a montré les sondages d'après qui disaient qu'il était plus convaincant. Et donc c'est sûr que ça peut être volatile aussi, vu que ça arrive tout d'un seul coup en effet de mode, mais je pense que quand même il peut créer la surprise et même trouer Hamon totalement.
Moi je sais pas, ah bah oui je pense que là Benoît Hamon va faire un mauvais score, mais par contre je pense qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon, moi je dirais que allez il a 10% de chance d'être au second tour, mais
c'est pas beaucoup.
Mais oui mais c'est pas beaucoup,
par rapport à Monsieur Coutou.
Oui sauf qu'il y en a qui ont zéro, donc sauf que
Monsieur Asselineau.
Non mais mon découpage ce serait Fillon 50%, Macron 40% et Hamon 10% et Mélenchon.
Alors chers auditeurs, vous notez les pronostics de Tiedel, moi je me garderai bien d'en faire.
C'est pas c'est pas pour le score.
Non mais on te retrouve. Non mais
c'est pas sur le score, c'est sur les chances d'arriver au second tour.
Oui d'accord, mais ça revient pas.
Mais bon je pense que honnêtement Jean-Luc Mélenchon il risque de faire un bon score, enfin pour moi c'est un risque mais après bon mais par contre pas d'arriver au second tour. Mais
on passe au prochain sujet, on retrouve la politique de toute façon la prochaine fois qu'on se retrouvera, c'est début mai, ce sera le 4 mai et donc on sera dans l'entre-deux-tours et ben on verra tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure qui sont les deux derniers justement sur la dernière ligne finish. On va parler de Kylian maintenant. Donc vous avez probablement vu ces images, ces reportages nombreux, et ce jeune homme qui donc décide un jour, on ne sait pas très bien si c'était prémédité ou pas, même si visiblement il en avait parlé à partie de ses camarades, un camarade en tout cas, si je me souviens bien, de venir au lycée, armé, et d'éliminer ceux qui lui faisaient du mal, puisqu'il a dit au proviseur qu'il n'avait rien contre lui, c'est au final celui qui était le plus blessé en l'occurrence, mais qui a réussi très courageux d'ailleurs, à l'arrêter et à faire en sorte qu'il n'aille pas plus loin dans le lycée. Évidemment, les jeunes gens de la classe et du lycée ont été choqués par tout ça, on le serait à moins. Ce qu'on va essayer, très modestement, très humblement, de faire ensemble là maintenant dans les minutes qui suivent, c'est d'après vous, comment on peut expliquer que quelqu'un qui a votre âge, qui est dans une classe de première, si je ne dis pas de bêtises, donc oui exactement dans l'âge de la plupart de ceux qui sont ici, puisse avoir ce type de geste fou, comme on le dit, mais une fois qu'on a dit geste fou, on a tout dit et rien dit, ça c'est un peu une facilité de langage. On a parlé peut-être d'une forme de responsabilité des parents qui sont pourtant tombés des nues, des réseaux sociaux, de la violence qu'on peut y trouver, d'une forme de préméditation peut-être, de l'école qui s'est peut-être pas rendu compte du lycée qu'il allait mal, et puis de ses camarades qui visiblement, c'est ce qu'il a déclaré, le harcelaient, se moquaient de lui. Il était en première, je confirme qu'il était en première puisque je me souviens qu'il était en première littéraire. Marius.
Moi je pense que c'est... Je pense Marius. Que c'est dû à une pression perpétuelle. Donc, je ne sais pas si c'est un acharnement moral. Je ne connais pas très bien l'histoire. Mais pour moi, c'est surtout une brutalisation. Je parle actuellement, enfin, quand on regarde les médias, on voit toujours des morts, toujours des morts. Je pense que ça peut avoir un effet sur...
L'influence des images qu'on peut voir aux États-Unis, hein, ça arrive... Hélas, assez souvent dans les lycées
même,
et les universités.
En tout cas. Je pense un peu partout, puisque la preuve en est qu'en France, ça nous affectait aussi. Mais je pense que toutes les images, tous les morts, ça doit quand même influencer la jeunesse, pas faible, mais qui peut se faire influencer.
Les jeux vidéo aussi.
Les jeux vidéo, effectivement. Mais bon, les jeux vidéo, c'est pas un sujet d'actualité, ça existe depuis plus longtemps.
La plupart des gens de votre âge font la différence entre le réel, le fictif, un jeu vidéo,
la guerre est réelle. La guerre est réelle. Je pense que c'est la brutalisation a beaucoup joué. Et je pense pas que ce serait la faute du lycée ni des parents. On peut pas porter la faute à quelqu'un.
Il a quand même
eu.
Je me permettrai pas de juger qui que ce soit parce que je connais pas toute l'histoire, mais quand même, ce qui peut faire partie des choses troublantes, une facilité entre guillemets à obtenir des armes, qui étaient des armes familiales, hein, du grand-père
et du père.
Père. Bon, oui. Alors là aussi sur le port d'armes, c'est un sujet compliqué aux États-Unis. En France, normalement, alors selon certaines exceptions, c'est pas militaire autorisé, mais je crois que voilà, c'est ça. Mais bon, lui qui était mineur, est-ce que c'est normal qu'il ait pu accéder aussi facilement à ses armes? Alors, je ne sais pas si c'était aussi facile, hein, peut-être qu'il a profité, sûrement, d'une absence de l'un et de l'autre. Oui, Alyosha.
Ouais, non, vous disiez que...
Mais ça, ça n'explique pas la raison du geste. J'ai envie de dire, ça aurait pu éviter le geste, peut-être. Pour le coup, pourquoi il a eu envie de faire ça, si on peut dire envie. Mais
c'est bon.
C'est envie bon, irrépressible. On t'écoute, Alyosha, ton micro fonctionne.
C'est bon. Ok. Non, moi je parlais parce que vous dites qu'il se faisait harceler, donc effectivement ça a dû un petit peu influencer ses actes.
Il a donné le nom au juge de ceux qui voulaient tuer quand il est rentré dans le lycée. Et c'était des copains de classe, copains entre guillemets pour le coup.
Effectivement, quand on est harcelé, on commence à plus avoir raison de ses actes. Et puis quand la colère elle s'accumule, et au bout d'un moment, bah effectivement, on a envie de leur faire du mal. À son tour, pour leur prouver, pour leur montrer ce que ça faisait.
Après, en avoir envie et passer à l'acte, on est d'accord, heureusement, ça reste exceptionnel. Et...
Ah bah oui. Mais quand même, c'est vrai qu'il est allé un peu loin, parce que c'est vrai que prendre
une arme...
Oui, c'est...
remarque, on ne sait pas comment il a harcelé ses copains aussi.
Certes, mais c'est clair que c'était la plus mauvaise des solutions, et encore, ça aurait pu terminer plus mal, parce qu'il y a eu des morts. Bon, on va dire que ça est relativement bien sorti.
Oui,
tout le monde.
Il n'y a plus eu de morts.
Mais non, il n'y a pas eu de morts, il n'y a que des blessés. Louise.
Après, si on regarde ses traits de caractère, j'avais vu ça dans un journal, et ben on voit qu'il adorait tout ce qui est satanique, etc. Et qu'il postait beaucoup de vidéos, enfin pas beaucoup, mais qu'il postait des vidéos sur Facebook où on voit des actes de tuerie massive, où lui il avait posté une vidéo en train de se suicider, enfin en feignant de se suicider. Et tout ça, ça montre que... Enfin, il a fait des tests psychologiques et on a vu qu'au final, il n'y avait pas de trouble psychologique mental qui était décerné. Mais ça peut quand même avoir une influence parce que s'il est passionné par tout ça, c'est sûr que d'un côté, ça facilite l'accès... Enfin, il veut peut-être reproduire ce qu'il a vu notamment en faisant l'usage d'armes, etc., de ce qu'il a fait. Et il a dit... Enfin, aussi, quand il a dit aux juges les personnes qu'il voulait tuer, il était même presque déçu de ne pas être arrivé... vraiment à la fin de son acte, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il assume totalement et il s'est pas du tout excusé. Il a dit non, moi c'est ce que je voulais faire, je l'ai fait, machin. Et donc ça montre que c'était vraiment une volonté, qu'il l'avait préparé, qu'il l'avait fait. Donc c'est pas quelque chose d'involontaire ou quelque chose qu'il a fait sur le coup en disant ah je vais aller faire ça parce que on m'a trop énervé, etc.
De toute façon, pour se procurer les armes, venir au lycée avec, c'est un minimum prémédité.
Oui,
ça,
mais
c'est
moralement,
sûr,
il aurait pu s'arrêter à un point en se disant non mais attends, je vais tuer des gens, c'est impossible à penser quoi, vraiment.
Tiadel et Baptiste. Non, Tiadel tout seul.
Je pense que ce que j'ai eu, c'est très intéressant. Moi, je savais pas que je connaissais pas cet aspect-là.
C'est pour ça que je voulais préciser.
Et je pense que c'est d'autant plus intéressant que effectivement, je me dis, mais c'est bizarre parce que comment ça se fait qu'un jeune homme de, je sais pas quel âge il avait, 15 ans,
17 ans, il était en première, 17
ans peut-être, puisse poster des vidéos de tuerie sur Facebook. Notamment des vidéos où il feignait de se suicider sans que ça attire l'attention de personne. C'est quand même un peu surprenant quelque part. Enfin bon, ne serait-ce que ses parents, c'est quand même bizarre que. Alors après, ils n'ont pas forcément accès à sa page, mais c'est vrai que ça dénote quand même un certain mal-être. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas m'amuser à poster ce genre de choses sur les réseaux sociaux, et toi non plus d'ailleurs. Enfin, après voilà, mais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, et c'est quand même extraordinaire que personne s'en soit aperçu, et que
parce
que
c'est sur la toile et qu'il n'y ait pas des gens qui signalent,
parce que sa page Facebook,
signaler des choses
page Facebook est quand même lue et vue par un certain nombre de personnes. Il était quand même pas tout seul à la voir, donc ou alors c'était des gens qui l'aimaient pas et qui s'en fichaient, ou alors
j'ai entendu comme Louis un certain nombre de choses, notamment de certains camarades qui disaient qu'il était connu pour ça, mais que c'était de la dérision, si on peut appeler ça la dérision, mais que voilà, ne s'inquiétait pas plus que ça parce que c'était la provocation, quoi.
Oui,
ce qui peut être vrai aussi dans d'autres cas.
Quand je fais de la dérision, je vais pas mettre
des
gens qui se font découper en morceaux. Ah ben oui, non mais c'est sûr.
Après, c'est sûr que s'il était s'isolait beaucoup, donc en s'intéressant à des choses sataniques, et ben quand ils ont vu ça sur Facebook, ils se sont dit que de toute façon il était dans son monde et que ça servait à rien de l'aider. Ils ont dû se dire ça, je sais pas, mais du coup, ils ont préféré laisser passer le. Ça a contribué à ce qui s'est passé. Mais ils ont préféré ne pas venir en aide, et c'est dommage. Ça montre qu'aujourd'hui, quand même, il y a un certain égoïsme et un certain. Indifférence. Voilà, exactement.
La question que j'allais vous poser, justement, c'est pour vous dire ce que tu dis. Est-ce qu'on dit, alors il y a peut-être un juste milieu entre les deux, comme toujours, mais c'est la fatalité, de toute façon, ce genre de gestes, par définition, on ne peut pas les prévoir. Ou est-ce qu'à l'inverse, on n'est pas un peu étonné que ni les parents, ni les copains, ni le lycée soient rendus compte que ça pouvait aller jusque-là? C'était peut-être difficile, mais qu'en tout cas, il allait mal. Il allait très mal, obligatoirement, par définition. Donc,
ouais, je pense qu'il a aussi essayé de... Peut-être, je ne suis pas sûre, mais ça peut être une hypothèse, qu'il a essayé d'envoyer des signaux d'alerte, comme par exemple avec les vidéos qu'il a mises, avec ses pensées, tout simplement. Et que personne ne l'a relevé, comme vous dites. Donc ça a peut-être aidé aussi à ce qui, enfin aidé, précipiter les choses au moment d'accomplir l'acte, quoi.
Dernière chose sur ce sujet. Oui,
vas-y Antoine.
Moi je vais bien répondre à la question que vous avez posée en partie.
C'est bien de répondre à mes questions. Oh, les autres l'ont fait aussi. Recadrons le débat. Toujours les politiques. Il y en a pas trop hier soir qui dit.
Rotel
Krief serait
contente à votre.
Tu veux dire que c'est mon côté Rotel Krief?
Ben oui.
Parce que là, d'accord, c'est moi qui ai posé des questions. D'accord, j'ai compris. Antoine.
Par rapport à l'affaire de Grasse, je pense pas qu'on puisse. On ne peut pas d'ailleurs prévoir tout le temps les gestes. Il y a pas de risque zéro ou de choses comme ça. Ça n'existe pas, et dans les affaires comme ça. Mais il y a des facteurs aggravants, comme par exemple, vous l'avez dit, le fait qu'il ait pu se procurer des armes, et que ce soit si peu encadré.
Je pense que ça, ils l'ont pas vu. Enfin, tout simplement, les parents n'ont pas pu voir qu'il avait pris les armes, qu'il s'est caché.
Rentrer dans son établissement avec un tel...
Ils étaient cachés. Hein. Je crois
alors ça, c'est
avait
aussi
des
questions qui ont été soulevées en période d'attentat, etc.
Oui, c'est vrai que c'est un peu...
Mais vous savez comment c'est, qu'on est un petit lycée ici, mais qu'un flot d'élèves qui arrivent tous à la même heure, c'est quasiment impossible de...
Oui.
Ou alors vous arrivez une heure avant, quoi, deux heures avant dans les gros lycées, ce que disent certains professeurs. Et puis on peut cacher des choses, dissimuler, à moins de faire de la fouille au corps, ils ne sont pas policiers, les chefs d'établissement, les enseignants non plus.
Et puis en plus, moi je trouve que... De toute façon, on peut pas dire qu'on va surveiller les lycéens, parce que de toute façon, ça sert à rien. Si il y avait des portiques à l'entrée du lycée, ils passeraient par-dessus le mur. Enfin, je veux dire. Et puis même les portiques, je veux dire, ça n'empêche pas de passer. À ce moment-là, faudrait une barrière géante, un sas avec des portes blindées. Ça, ce serait quand même difficile à mettre en place.
C'est pas un détecteur, donc tu peux très bien passer au compte-gouttes, mais avec une arme.
Oui, voilà,
c'est cartable,
ça.
Donc,
les tactiques, à tous les téléphones, choses comme ça qui sonneraient, ce serait pas. C'est pas applicable.
Oui, voilà, c'est
il
ça.
Avait un sac de sport, mais oui, je crois qu'il y en a un. Il allait faire du sport ce jour-là, puisqu'il s'est approché aussi du gymnase et qu'il inquiétait aussi le gardien du gymnase.
Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, c'est. Enfin, entre guillemets, là c'est un peu malvenu, mais c'est l'intention qui compte. Je veux dire, non, mais qui soit rentré avec une armada.
Le résultat compte un peu quand même, mais les raisons.
Oui, non, mais d'accord, mais.
Servir à faire plus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis que c'est l'intention qui compte, c'est que quand on a l'intention de faire des dégâts, on trouve toujours un moyen de le faire. Il aurait pu, je sais pas moi, se saisir d'une règle de 1 mètre dans la salle de maths pour faire le coup du lapin. T'as à
ses
camarades
sans avoir d'arme blanche.
Donc voilà, donc on peut, donc on peut pas.
Bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il avait une arme blanche.
Oui, aussi.
Il avait aussi
une
arme blanche.
Exact.
Bah, il était bien équipé.
Bon, on va rester un petit peu, je suis désolé dans la violence, mais le sujet prochain c'est aussi celui-là, donc je rappelle les faits, vacances de février, vacances scolaires, enfin peu importe, hein, mais c'est pour situer la période à laquelle ça s'est passé, nous sommes à Cannes, et un monsieur d'une quarantaine d'années qui est éducateur sportif, qui dans le cadre de sa vie privée, ses loisirs personnels, comme depuis quasiment 20 ans je crois, se rend dans une salle de sport, prend sa douche après le sport, est nu sous la douche et voilà que 4 jeunes gens d'à peu près 18 ans si je me souviens bien arrivent, le tabassent en criant très fort, c'est scandaleux, c'est dégueulasse ce que tu fais, ça ne se fait pas de prendre sa douche à poil devant tout le monde. Interruption temporaire de travail de plusieurs jours, plainte évidemment, et le monsieur est évidemment traumatisé par ce qui s'est passé, ne comprenant pas ce qui lui est arrivé, alors qu'il fait ça depuis des années, que d'autres font ça dans un cadre sportif en France la plupart du temps. Apparemment, de pseudo, je dis bien pseudo, raisons religieuses seraient cachées derrière tout ça, alors qu'aucune religion, pas plus musulmane que catholique ou autre, ne dit qu'il faut prendre sa douche avec un casque et un anorak. Alors, est-ce qu'ils sont pudiques, trop pudiques? On peut respecter la pudeur de chacun. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux et sans le tabasser? Pardon, la réponse est évidente. Mais voilà, en quoi ça les gênait d'une certaine manière? Ils étaient obligés de faire pareil? C'est la première question. Et donc, on a appris aussi, certains journalistes ont expliqué que, jusque dans l'équipe de France de foot, lors de la dernière Coupe d'Europe, il y a eu une pression de certains joueurs, a priori, on est là pour dire les choses clairement et pas tourner autour du pot, de confession musulmane, et qui auraient une interprétation, et une surinterprétation des textes religieux, qui leur interdirait de ne pas garder leurs caleçons en présence des autres joueurs. Ça a été un peu compliqué apparemment, ça n'a pas trop été dit, mais c'est quelque chose qui ressort suite d'ailleurs à cette affaire. Donc qu'en pensez-vous? Comment on peut expliquer ça? Est-ce que certains veulent changer le mode de vie? Alors le leur, ça peut le regarder, mais des autres, est-ce que c'est ça derrière? Est-ce que c'est des pudeurs malvenues? Allez au chat.
Ouais, non, mais moi je pense que... non, d'accord, c'est bon, on va arrêter de se marier. Non, mais c'est un peu exagéré comme genre de réaction. Je veux dire, si ta religion te prône de ne pas te mettre nu dans la douche, tu peux simplement en faire part à quelqu'un. C'est pas non plus en venant le tabasser que tu vas lui faire comprendre. Tu vas lui faire comprendre, mais un peu trop violemment quand même.
Oui.
On peut juste lui dire, excuse-moi, ma religion me dit de pas me prendre la douche nu. Est-ce que tu pourrais remettre ton caleçon s'il te plaît?
Mais ce monsieur, dans la phrase que tu viens de dire, il n'a pas demandé aux jeunes de se déshabiller.
Oui, justement, ils auraient pu juste venir le lui dire que ça les gênait. C'est pas.
Est-ce qu'ils pouvaient pas juste partir? Prendre leur douche chez eux. C'était pas ça la solution en fait.
Venir lui dire ou alors repartir chez eux, c'est pas compliqué quand même.
D'accord. Louise, et puis Alexandre.
Je pense que si on regarde.
Un grand sportif fait du handball, sans vouloir trahir sa vie privée, mais c'est lié justement un peu au sujet, donc ça peut nous intéresser. Merci Alexandre, je me souviens qu'il n'y a jamais de problème, nous sommes en libre expression. Oui. Comment?
Pour vous et moi, il n'y a pas de sujet tabou. Et...
Jamais. Quelques-uns, peut-être. Mais enfin, pas qu'on ne puisse pas dire à la radio, avec des auditrices et des auditeurs, même en dehors, dans le respect mutuel de chacun.
Allez, Louise.
Bon, pardon pour ce petit aparté entre Alexandre et moi. Non, je disais juste qu'il faisait du hand et que forcément, le problème qui en est sûrement pas un, mais il va nous dire, de la douche se pose. Donc, Louise.
Donc,
le contexte en tout cas.
Si on regarde d'un point de vue plus large, ça peut aussi montrer que en ce moment dans la société, il y a énormément de violences qui s'accumulent de partout. Il y a énormément de peur aussi avec tout ce qui a été des attentats, etc. Et je pense que ça se traduit notamment par des petits, si on peut dire, événements comme ça où on aurait pu régler les choses par par de la parole, par une discussion, mais qu'on le fait par la violence parce qu'on a vu que tout ce qui est, par exemple, des attentats, il n'y a pas forcément que ça, je sais, mais si on voit à la télé la violence, etc., comment les djihadistes y font pour transmettre leurs idées et pour dire ce qu'ils ressentent, et ben du coup, ça a une sorte de... Ça fait pas de trampoline. Écho. Ouais, ça a une sorte d'écho sur les personnes qui regardent ces informations, qui étaient présentes aussi lors de ces attentats, et ça peut leur donner des idées pour justement faire passer des idées et qu'ils se disent « Ah bah non, je sais pas comment faire, je vais employer la violence, c'est le moyen le plus simple. »
Mais tu parles d'idées, je rebondis là-dessus, si c'est que, c'est déjà 4 abrutis de trop, mais que 4 abrutis qui font ça, bon, le problème c'est qu'il semblerait, je parle au conditionnel, il faut être prudent, c'est pas de statistique là-dessus, qu'elle soit une tendance,
oui.
Tendance, au-delà de ces 4 abrutis-là, qui, au nom d'une certaine idéologie en fait, parce que fondée sur à peu près rien, respecter la pudeur de chacun, c'est respectable pour le coup. Mais ça semble pas être forcément que pour des raisons de pudeur personnelle qui regardent chacun, mais pour d'autres raisons invoquées qui correspondent à rien en plus. Donc,
oui.
Au nom d'une idéologie religieuse, extrémiste apparemment, et tout ça pour un caleçon ou pas de caleçon. Quoi. Enfin bon, on se dit que c'est un peu surréaliste. Oui, Alexandre, le sportif.
Oui, non, mais c'est vrai que...
Il y en a d'autres, peut-être.
Peut-être que je me trompe, mais vraiment, comme vous le disiez, moi, je connais aucune religion qui impose le fait de devoir porter un caleçon. Et puis, même si c'est le cas, je trouve, c'est surprenant qu'en équipe de France, ça soit aussi présent, quoi. Parce que, enfin, pour pratiquer...
En tout cas, lors de la dernière Coupe d'Europe, hein, je ne dis pas que c'est forcément très ancien, mais justement, c'est un phénomène récent, pardon. Ouais.
Pour
c'est
pratiquer
ça qui est
du
bizarre.
Sport, un sport collectif où on se douche tout nu, enfin, voilà... Eh ben, je crois que j'ai jamais eu aucun tabou. Liam qui fait du sport avec moi, voilà. Enfin, on se connaît. Après, c'est vraiment une fausse histoire de pudeur. Et pour répondre à cette histoire de pudeur, enfin, on est tous fait pareil. Au bout d'un moment, faut arrêter de stigmatiser notre corps. On est tel qu'on est. Si après eux, ça leur a déplu, c'est à eux de prendre leur caleçon et de rentrer chez eux. Je crois. Enfin, peut-être que Tiedel, t'as pas l'air d'accord.
Si, justement.
Ah, bon, tant mieux, je te voyais.
Ou peut-être même à la limite d'aller prendre la douche en gardant leur caleçon. Bon, et les autres sont peut-être plus intelligents et diront rien,
et puis
ceux
se
qui
se
l'ont
tourner,
pas.
Puis se tourner, mais pour avoir les parties
et voilà.
De
bon, après, si ça les gêne, ils peuvent aller chez eux, effectivement, on est d'accord.
Enfin,
Tiedel.
Chacun a eu sa liberté.
Marius.
Oui, deux choses une. D'abord. Effectivement, je vois pas quelle religion. Je vois pas de quelle religion interdit de prendre sa douche sans caleçon, parce que, honnêtement, je sais pas comment ils font pour prendre leur douche, enfin autrement. Et en plus, c'est une réalité. Et en plus, depuis quand? Parce que si c'était une histoire de religion, et évidemment, ça n'est pas une histoire de religion, parce que là encore, c'est des gens comme des abrutis, effectivement, qui font ça. Bon, mais honnêtement, à mon avis, c'est pas tant une affaire de religion, et ça, c'est la deuxième chose à laquelle je voulais en venir.
Sauf ce qui semble être invoqué, hein, pour parler clair.
Oui, mais c'est ce qui est invoqué.
Faudrait respecter les préceptes.
Oui,
du jugement,
mais c'est des
en
préceptes.
Faisant ça, en
mais c'est
pas
des
ça,
préceptes depuis quand? Parce qu'avant, ça arrivait
pas.
Ça.
On est
oui, voilà, c'est ça. Donc
qui leur a mis ça dans la tête?
Parce qu'avant, ça existait. Bah oui, c'est surtout ça le problème. Mais
on
sur
volonté.
Oui, mais sur le problème de la douche en particulier, je pense que effectivement, si tout le monde commence à faire sa propre loi, donc ça c'est la deuxième chose à laquelle je voulais en dire, si tout le monde commence à faire sa propre loi en disant moi je veux pas qu'un tel se douche tout nu, etc., on s'en sort plus. Donc il y a un règlement, il y avait certainement un règlement intérieur au gymnase, une loi qui fait que
une salle de sport
dans la salle de sport. Donc bon bah effectivement, on a peut-être le droit de se doucher tout nu, on n'a pas le droit de tabasser les autres. Puis voilà, je pense pas que ce soit nécessaire de porter ce problème sur dans le champ de la religion. Voilà, je pense que c'est pas...
Si j'ai bien lu l'histoire, ça change pas fondamentalement grand chose, sinon que ça aggrave probablement le cas de ces quatre là. Il était en plus dans une cabine individuelle, et ce moment où il est sorti de la cabine, il y a le temps qu'il a passé, j'imagine, entre la cabine et le vestiaire pour les s'habiller, oui, et pour remettre son caleçon, qu'il a été agressé. En plus, c'était même pas dans un endroit vraiment collectif, puisqu'il y avait une porte. Donc il y avait vraiment un souci de l'autre côté. Liam, oui. De la porte.
Oui, donc moi je suis encore une fois d'accord avec Alexandre et Thiedel.
C'est pas grave.
Ah non, bien sûr, c'est pas grave. C'est que, de une, je trouve ça intolérable vraiment que pour des questions de fausse pudeur, certaines personnes fassent du mal à d'autres. Et en plus, de ramener ça à la religion, ce qui me fait penser à. Je vais peut-être un peu dans l'excès. Mais à Daesh qui se donne comme excuse justement la religion pour des actes qui n'ont pas lieu d'être tout simplement qui sont totalement intolérables et je trouve ça encore plus dommage de lier la religion à tout ça.
Il y en a d'autres qui font du sport autour de la table, sport collectif. Il n'y a jamais eu de soucis de ce genre, j'espère bien. Oui, ça va de soi.
Si je peux dire, sans citer de nom, dans notre équipe, il y en a qui se douchent avec des caleçons. Ils n'ont pas envie. Ou même, ils vont à côté dans les douches d'à côté. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu.
Par pudeur, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire aux autres, vous, ce que vous faites, c'est dégoûtant parce que vous ne respectez pas tel
trait. C'est ça. C'est une différence. C'est un lieu public pour choisir.
Marius ?
Alors, moi, je tiens à rebondir sur. Quasiment tout ce que tout le monde a dit. C'est
la synthèse, ça tombe bien, on va passer au dernier sujet.
C'est que je me suis un peu renseigné sur le sujet et dire qu'il n'y a aucune religion, c'est faux. Enfin, concrètement, il y a une religion, l'islam, qui oblige, enfin qui indique aux pratiquants de rester, d'avoir la partie du nombril au genou cachée. Donc
je sais pas où tu as trouvé ça oui,
mais
voilà,
entre personnes du même sexe, à mon avis, il y a rien qui dit ça.
C'est
par rapport aux femmes, effectivement.
Oui, parfois, par rapport aux femmes.
Oui, mais là il s'agissait que d'hommes.
Mais dans la sphère publique, c'est cette partie-là qui doit être cachée. Après, l'imposer aux autres, comme en équipe de France.
Celui de l'équipe de France, il porte pas de short, alors il le met comment son short ?
Oui, voilà,
je
c'est
sais
ça.
Pas du tout. Sont...
Oui, non, mais
bah, justement, je ne sais pas du tout.
Oui.
Je pense qu'il y a différentes interprétations.
Un petit peu, ça reste un short.
Oui.
Mais après, je pense que Marie, c'est possible. Je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense que cette règle peut exister. Après, on est au 21e siècle. Est-ce que on doit encore appliquer ce genre de loi religieuse.
Mais je pense que même, enfin tout simplement en équipe de France, même pour des raisons hygiéniques, je pense que se doucher en maillot de bain n'est pas très hygiénique.
En short,
pour rebondir sur ce que tu allais dire, Thiedel, c'est vrai que du nombril au genou, c'est très excessif et il faut l'interpréter différemment.
Marius,
je sais pas où c'est écrit.
Quand bien même, parce que je suis pas tout à fait certain de ça, quand bien même, il s'agit même pas de ça. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à ces personnes qui ne veulent pas montrer leur corps, c'est elles qui veulent imposer aux autres de ne pas montrer le leur.
Non, mais c'était pour rebondir sur le fait
c'est encore une dimension.
Que tout le monde disait aucune religion.
Oui,
on n'a pas été hypocrite, on a dit de toute façon qu'il s'agissait de l'interprétation de la religion.
Oui,
c'est
enfin,
pas catholique.
Honnêtement,
hein,
je ne sais pas si c'est un fait avéré. Je ne sais pas où tu as lu ça, où tu as vu ça, mais... mais c'est vrai que ça me semble un peu curieux parce que ça m'étonnerait honnêtement que les équipes de foot des pays d'Afrique de l'Ouest ou même des pays d'Afrique en général se douchent en maillot de bain ou enfin en caleçon ou quoi. Et puis honnêtement justement, pendant les vacances de février, j'étais dans un pays musulman. Les gens, les hommes se promenaient sur la plage en caleçon de bain et les femmes en maillot de bain. Donc, et ils étaient musulmans. Donc,
voilà, c'est sûr, après, faut chacun.
On en revient à la surinterprétation et une forme d'extrémisme.
Oui,
voilà.
Parce que.
Chacun peut faire son interprétation de l'islam.
Oui, voilà, parce que je pense pas que.
Baptiste, c'est bien ça le problème, l'interprétation et la surinterprétation.
Après, pour avoir une interprétation de l'islam, il faut déjà avoir lu le Coran, et je ne suis même pas sûr qu'il l'ait lu, parce que pour avoir des gestes comme ça, je ne pense pas que ce soit de vrais religieux.
Enfin, on l'a lu pour eux, et des scrolls ont fait un résumé faux,
c'est
sûr.
Et après, c'est ce genre de choses qui participent à la loi de les musulmans qui veulent nous interdire notre culture et qui veulent nous...
C'est pas les musulmans, hein, c'est une petite partie...
Ah oui, non, mais c'est ce qui. Non, mais c'est
d'accord, pardon, pardon.
Oui, il dit c'est l'amalgame, oui.
Voilà, c'est ça, ça va faire des amalgames et ça va. Et c'est des extrêmes qui montent après.
À cause de ces gens-là, c'est sûr que les amalgames sont créés, ça, c'est sûr.
Voilà que.
Et la copine de Monsieur Tiedel, susnommée, dans le premier débat, celle qui t'a le moins convaincu.
Ah oui, oui, pardon.
Pour ne pas la citer, peut, voilà, aussi faire référence à ce genre de choses.
Ah ben oui.
L'a pas fait, mais.
Oui, bah si, enfin, je sais pas si elle l'a fait, mais d'ailleurs.
Elle a parlé de ça en particulier, mais.
Oui, enfin, de toute façon, comme. Bien souvent, quand elle dit quelque chose, c'est faux. Sinon, il ne faut pas en général s'y fier. Mais...
Évitons de trop généraliser non plus. Mais...
bien, c'est souvent le cas.
C'est
quand
ce
même.
Que tu penses en tout cas.
Que ce soit sur l'Europe ou quoi, hier, il s'est avéré que ce n'était pas très. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus.
Ils étaient quand même plusieurs à penser la même chose qu'elle, hein, sans vouloir.
Oui, ils étaient plusieurs.
L'objectivité
de ce qui était dit.
Ils
étaient plusieurs à se tromper. Comme l'a dit d'ailleurs, comme l'ont rappelé d'ailleurs François Fillon et Emmanuel Macron. Mmh.
On arrête sur ce sujet-là et on termine par le... Non, on n'a pas de réaction sur Twitter, Internet, les chats.
C'est justement parce que j'ai...
Ah oui, j'avais oublié un petit détail. Pardon, nous sommes une émission enregistrée. Je dis des bêtises. Les gens ne peuvent pas appeler. Bah si, ils peuvent appeler quand même, en fait, pour demander pourquoi ça... Oui.
J'ai cherché là et en effet, genre... Enfin... sur le site dont je suis tombé. Donc
quelle est la source, Alexandre? Voilà. Non, mais quelle est la source?
Ils doivent pas être en mode avion.
Ne nous lis pas quelque chose si tu n'es pas la source, Alexandre. Non, mais
si,
vraiment
si,
pas.
Je le dis, c'est islamka.info. Ce ils disent. Voilà.
C'est pas un site journalistique.
Avec notre sens critique, on dirait. Attention à
bon, enfin, on ira vérifier, mais moi, quand j'ai lu ça dans Nice ce matin, j'ai entendu des gens à la radio qui sont intervenus sur RMC. Il y avait aussi, me semble-t-il, des spécialistes de l'islam, mais qui respectaient leur propre religion et dans la limite du respect des autres. Et ils semblaient dire eux-mêmes, pour bien connaître le Coran, que rien ne disait ça. Et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, participaient à des sports collectifs. Et c'est pas ce problème-là. L'islam. Le Coran, c'est quand même le... Si, le Coran, c'est le texte. C'est le texte de l'islam. Interprétation du Coran que lisent. Qui fait partie de la religion islamique.
Oui. Enfin, pour quand même finir ce que j'étais en train de dire, c'était que Allah ne disait pas qu'il fallait être habillé. Enfin, il faut, enfin, comme on le souhaite, et que certains salafs, enfin, conseillent eux de s'habiller. Mais c'est vraiment des nuances de la religion.
Mais
c'est
non, mais
vraiment
attention,
des interprétations du Coran. De façon plus extrême.
Alors, je suis loin d'être un spécialiste, mais je suis allé aussi un peu parfois dans des pays musulmans et des pays orientaux au sens large. Il me semble que le concept du hammam, notamment, vient plus ou moins de là. Il ne me semble pas que dans un hammam, les gens soient totalement habillés de pied en cap. Alors, entre gens du même sexe en général, mais c'était bien là, c'était un vestiaire masculin. Donc, je vous pense très cohérent quand même.
Pour donner mon sens critique sur ce que je viens de dire, je pense que c'est certain.
L'islam, c'est un peu déshabillé. L'islam, pardon. Le hammam.
Ils ont détourné ce qu'on pouvait lire dans le Coran, mais.
D'accord. Et puis, certainement détourné.
Oui, parce qu'il disait.
Parce que ce que tu disais,
le site dit c'est certains salafs qui disent ça. Effectivement, si c'est des salafistes, effectivement.
Oui,
effectivement, c'est des salafistes, c'est pas étonnant.
On va les prendre comme référence.
C'est pas étonnant qu'ils disent n'importe quoi.
C'est un site un peu extrémiste, en gros, ce qu'il nous a donné.
Islamka.info.
C'est les amis des quatre jeunes gens, probablement.
C'est pas.
Tu as trouvé le site des amis des quatre abrutis, pardon. J'espère qu'on n'aura pas de représailles. De toute façon, ils nous entendent certainement pas, mais enfin, on est.
2001, donc
Oui, en plus, en 2001.
C'est bien avant cette affaire.
Donc, un site qui n'a pas été mis à jour depuis le 11 septembre 2001.
Alors, merci quand même, Alexandre, pour ta. Tu as pris cher avec ta source, mais je pense quand même que tu as la raison. Pour faire une transition, comme moi seul, c'est les faire. Venir à l'école tout nu, par contre, ça, c'est interdit par la loi. Et donc, c'est l'uniforme que certains proposent. Ça permet d'éviter ce genre de difficultés. Êtes-vous d'accord? Pourquoi pas? Alors, il y a ici, dans ce lycée, des t-shirts sport nature, par exemple, ou des sweats sport nature. C'est bien un sentiment d'appartenance à un groupe. Ça fait plaisir, c'est fédérateur. Alors, l'uniforme, le même pour tout le monde. Est-ce que ça efface les marques? Est-ce que ça efface les différences sociales? Est-ce que c'est plutôt ringard? Est-ce que c'est fédérateur? Louise, nous t'écoutons. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, déjà, il faut préciser que l'uniforme, il est préconisé par les candidats de droite, surtout. Essentiellement. Et que les candidats de droite voudraient, en général, une unité nationale renforcée. Ça veut dire que tout ce qui est les différences, etc., qu'elles soient gommées. Enfin... En gros, hein. Et du coup, je trouve que l'uniforme, c'est pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée parce que on a plus justement, on a acquis,
Oui, on a acquis des droits au fur et à mesure des années qu'on a demandé, parfois avec violence, etc., pour pouvoir justement différencier, être capable d'avoir une identité propre à soi-même et pas être comme tout le monde. Et je trouve que mettre un uniforme, ça revient en arrière et que c'est une idée complètement arriérée. Et je comprends pas pourquoi on veut faire ça. Et comme vous le disiez, avec le t-shirt pour la nature, par exemple, à 10, c'est totalement une autre mesure, parce que là, c'est vraiment pas obligatoire. On le prend si on a envie, mais ceux qui le prennent pas, on va pas leur dire: ah, mais t'as pas mis le t-shirt pour Nat, au secours. Non, quand même.
Limite, à mon avis.
Non, vraiment pas.
Parfois, vous êtes très nombreux à avoir la même journée. Bon, c'est un jeu, mais.
La même journée.
Bah, la même journée, parfois, il y en a 10-15 qui ont le même. Donc,
oui, mais c'est parce que c'est un t-shirt.
Toi, tu l'as pas, sans forcément se moquer.
C'est parce qu'il y en a qui sont dans ce lycée, mais c'est comme n'importe s'il y avait un autre t-shirt qui serait vendu.
Est-ce que c'est pas une manière de représenter son établissement ailleurs, quand on est en dehors? Enfin, une fois, normalement, on l'a pas à l'extérieur, mais. Ou quand on va dans la rue.
C'est pas le premier vœu, je pense.
Mon voyage scolaire.
Non, c'est juste parce que c'est une sorte de tradition, en fait, d'avoir le t-shirt sport net. C'est pas forcément.
Ça se fait en Martinique, ça se fait en Côte-Loupe, je crois. Il y en a beaucoup de dom-toms français.
Oui, mais je crois que justement l'argument qui était invoqué par François Fillon, c'était justement ce qui est.
Pour ne pas l'hésiter.
C'était. Non, c'était que, effectivement, il fallait que chaque établissement ait une identité propre, etc. Bon, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt, sauf si c'est un costume comme François Fillon sait si bien se les faire tailler. À ce moment-là, ça peut
là,
être.
Par contre, c'est toi qui es en train de tailler un costard à Monsieur Fillon.
Et à ce moment-là, ça peut être intéressant, mais. Mais autrement, honnêtement,
ça va coûter cher à la nation s'il faut payer.
Ça va coûter cher, mais bon, bah, il faut y mettre les
uniformes.
Il faut y mettre les moyens pour avoir des élèves bien habillés en cours. Non,
ça a été chiffré, hein, je crois que c'est plusieurs. C'est impressionnant, dizaines de millions.
Oui,
millions
d'euros, mais sûrement, parce que de toute façon, dès qu'on fait un truc à l'échelle d'un pays, ça coûte forcément tout de suite très cher. Mais honnêtement, bon, je vois pas l'intérêt de mettre un uniforme pour fédérer l'établissement, ni d'ailleurs pour gommer les différences, parce qu'à mon avis ça gomme rien du tout. Ça renforce peut-être au contraire, parce que
en dehors, ils existent toujours.
Oui,
une fois qu'on est sorti de l'école,
oui, parce que bon, les uns auront un uniforme plus propre, les autres auront des chaussures Berluti, les autres auront des boucles d'oreilles Dior. Bon,
à l'inverse, est-ce que ça n'empêchera pas d'avoir une des tongs, des shorts un peu courts. Vous avez vu la polémique au lycée Louvain-la-Lance.
Pour ça, on n'est pas obligé d'avoir
des jupes un peu courtes.
Pour ça, on n'est pas obligé d'avoir
tout le monde a une longueur réglementaire et on peut-être une atmosphère au travail plus propice qu'avoir des tongs. Je le citerai toute ressemblance
l'argument,
avec
l'argument qui était
lycée ayant réellement existé.
L'argument qui était cité par certains parlementaires de gauche qui sont pour l'uniforme, parce qu'il y en a aussi, oui, à gauche, c'est que justement, ça mettrait les filles et les garçons sur un pied d'égalité en termes de respect. Parce que nombreux sont les établissements où il y a un dress code pour les filles, et puis pour les garçons, il n'y en a pas, parce que évidemment, pantalon, short, c'est
mais
moins.
Mais ma question, c'est plus sérieuse qu'elle en avait l'air. Est-ce qu'on n'a pas plus envie de travailler en étant en uniforme qu'en étant en tongs ou en short?
Si c'est,
même
franchement,
quand il fait chaud,
en plus, si c'est un
jour.
Uniforme moche, ça ne donne pas très envie de travailler. Non, mais c'est vrai, parce que voilà. M. Fillon veut mettre une blouse. Bon, une blouse, c'est pas très heureux quand même. Enfin, franchement, c'est pas beau. Alors, et puis là, l'autre argument qui était invoqué d'ailleurs par le.
Tu pas pour la journée de la jupe, tu pas de blues.
Par le non et puis l'autre argument qui était invoqué par le Front National, lui, c'était que ça allait apprendre aux filles à porter le tailleur et aux garçons à porter le costard. Alors là, j'ai pas compris, parce que honnêtement, déjà eux, quand on voit comment ils portent leurs vêtements au Front National, ça laisse dubitatif, parce que à mon avis, ils ont mal placé.
Ça, c'est un délit de faciès. Là,
c'est un délit de faciès. C'est vrai.
Ils sont plus mal habillés que les autres hommes politiques.
C'est vrai que bien souvent, ils ont des cravates mal nouées. Je l'ai observé. J'ai regardé.
Très observateur.
J'ai regardé après que.
C'est la première fois que j'entends
ça. Non, mais j'ai regardé après que j'ai entendu cet argument qui était mis en avant, et cette personne qui était donc le spécialiste de l'éducation du Front National, qui disait on va leur apprendre à porter son costume était froissé et sa cravate était en gros tordue et pas serrée.
Les conseillers sont pas les payeurs.
Donc c'était un peu. Et puis honnêtement, bon, l'argument de dire je vois pas à quoi ça sert. Voilà.
Antoine et Louise.
Et ben moi, pour aller un peu dans le sens de Tiedel, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un uniforme pour avoir une cohésion dans le dress code, justement. Des élèves, on peut donner un sens, oui, un sens aux habits, pour donner une certaine cohérence. On peut, mais sans recouvrir l'uniforme, avoir un costard trois pièces ou quelque chose comme ça, et ce serait exagéré.
Juste avoir un dress code.
Oui, voilà. Et puis je pense que même si pour certains établissements,
en français,
pour certains établissements, ce serait nécessaire.
code vestimentaire.
Merci. Faudrait voir ça au cas par cas par lycée, parce que je pense que dans certains lycées, ce sera pas du tout adapté, comme dans d'autres lycées, ça peut être.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que je connais des lycées d'un peu près où je pense que ce serait une révolution certaine. Vu la tenue majoritaire d'un certain nombre d'élèves du lycée, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus décontracté, que les t-shirts sus nommés, si je ne me sens pas concerné, se retrouver en cassard cravate ou quasiment, ça va faire bizarre, hein. Ça ferait bizarre.
Mais je pense que dans une
autre, se sentir un peu opprimé.
Une autre mesure, dans certains établissements, ça peut bien séparer l'établissement de l'extérieur. Mm. Et notamment dans des endroits où cette séparation n'est pas bien marquée. Mais je pense que pour les lycées de zone rurale, c'est pas tout à fait nécessaire.
Oui, c'est pas forcément la cravate, j'entends, en apporté, mais enfin, en tout cas, le même t-shirt ou la même chemise, plutôt des chemises en général, hein, pour,
oui, mais bon,
alors, pour les dom-toms sont... notamment. Comme Tiedel, une jolie chemise aujourd'hui.
Oui, mais bon,
je sais pas. Personne n'était obligé, Tiedel.
Ah non.
Liam dit personne n'est obligé. D'accord. Non. Et toi, ton sweat non plus, Liam. Toi, les chemises, moins, c'est moins ton truc. Ah oui, si, de temps en temps, il me semble t'avoir déjà vu en chemise. Exact. Bah, et d'ailleurs, Alexandre, qui était passé sous le studio, sous la table, mais a gardé sa chemise quand même. Qu'est-ce que tu voulais dire, Liam? Heureusement, aujourd'hui, on n'est pas filmé. Enfin, on aurait pu, puisqu'il a gardé sa chemise.
Ah oui, parce qu'il va y avoir des... Oui.
Je sais pas, un jour peut-être.
Bah, espérons qu'il y aura des
passages. Il faut demander à qui tu sais. À Liam et Alexandre. Louise et Liam, non mais Liam n'avait pas fini, je pense. Et puis... Si? D'accord. Vas-y, Louise, alors.
Je voulais préciser pour la blouse.
Et puis on va les manger. Parce que...
Qu'elle était préconisée avant parce qu'il y avait tout ce qui est tâche au niveau des stylos, etc. Et c'était que pour ça qu'il y avait une blouse, genre vraiment. Donc maintenant qu'il y a tout ce qui est, je sais pas, stylo bic, etc. Il y a... Ouais, non, c'est pas ça. Mais il n'y a vraiment plus besoin. C'est juste ils mettent cet argument. Mais. Je trouve que comme vous disiez avec je sais plus les candidats de droite qui disaient que ça apprendrait aux enfants à porter les costards et les tailleurs, enfin ça c'est hyper dégradant, enfin je trouve que dire on va apprendre à porter des bons habits aux enfants, bah ouais, mais il y en a qui ont pas forcément envie de porter des bons habits dans leur vie supérieure, quoi.
Oui, puis
c'est aberrant.
Oui, puis je vois pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, ils peuvent très bien, s'ils ont envie de savoir comment nouer une cravate, ils ont qu'à regarder un tutoriel sur YouTube. Voilà, bon, c'est
pas... Ah, rien ne vaut l'expérience. C'est très difficile à faire, une cravate. Hein. Moi-même, je suis pas un expert. Hein.
Ouais, je me souviens.
Loin, s'en faut. Qui a déjà mis la cravate ici autour de la table? À des mariages, à des communions.
Pas pour venir au lycée.
Non, pas pour venir au lycée, mais. Si, c'est facile, difficile. Oui. En général, on le fait puis on le garde après pour le mettre la prochaine fois. Non c'est plus pratique comme ça. Vous le refaites à chaque fois. Ouais, oh. Mais tous les combien vous mettez la cravate? Pas souvent, Marius?
Non, pas tout le temps, mais.
Ah non, là en l'occurrence, sur un t-shirt en face de nous. Là.
Oui, en l'occurrence, oui. Mais non, j'essaye.
Tu viens pas à la radio en cravate, toi? À la radio en plus. Non, comme c'est filmé, comme c'est bien connu, ça aurait un intérêt.
Bah, oui, aujourd'hui, vous, monsieur. Non, mais.
Très joli polo. Polo très, très sobre.
C'est ça.
Non, mais.
Lumineux, oui. On m'a dit ce matin. Un élève m'a dit que j'étais lumineux. Comme toujours. Il suffit que j'ai un t-shirt blanc pour être lumineux, c'est très désagréable en fait.
Oui,
j'ai cru que c'était un compliment, mais je
crois que c'est pas.
Marius, qui s'appelle pas du tout Marius, mais je vais y arriver. Qui s'appelle Jérémy.
Alors moi, je rejoins tous les autres. En fait, le seul bon argument que j'ai entendu, c'est que
ça fait pas beaucoup.
Enfin, le seul argument recevable que j'ai entendu, c'est que ça peut mettre tous les élèves sur un pied d'égalité, que il y a plus de différence entre ceux qui sont plutôt aisés,
au moins le temps
qui montrent leurs habits leurs habits chers, et les autres, voilà. Et puis le lever de drapeau, c'est je trouve ça encore plus réfractaire.
La Marseillaise, le lever de drapeau parfois.
Ah oh bah non, mais c'est...
Chaque matin, il y en a un qui est responsable. Donc demain, c'est Jérémy. Après-demain, c'est Marius.
Ouais. Ouais. Ce sera les jeunesses fillonistes ou le.
Ils arrivent un peu avant.
Non, je crois que c'est pas dans le programme de François Fillon.
C'est un peu
excessif. C'est Marine Le Pen.
Non, ça se fait dans des pays démocratiques.
Oui, oui.
Aux États-Unis, par exemple.
Ils chantent, je sais pas quoi, un pays under God, je sais pas quoi.
Ouh là là, les doigts
et donc
sont tous levés. On écoute un peu les autres et comme tu en parles un tout petit peu plus long, on garde la fin.
Oui.
On fait la conclusion. En général, c'est Louise ou toi qui fait la conclusion. On écoute Marius, Alexandre, Eliam.
Moi, contrairement à un peu tout le monde, je suis plutôt pour l'uniforme, le lever de drapeau et la Marseillaise.
Parce que quel changement radical par rapport à l'autre.
Parce que je trouve que, enfin, Déjà, pour le lever de drapeau et la Marseillaise, ça rendrait un peu un côté patriotique qui manque, je trouve, à cette génération, le respect du drapeau, le respect de la Marseillaise.
De l'autorité des professeurs.
De l'autorité des professeurs. Parce que je trouve que même, enfin, il y a des personnes qui ne connaissent pas la Marseillaise, je trouve ça un peu limite. Et pour l'uniforme, moi je trouve que l'égalité, l'uniformité, c'est un élément qui est recevable. Et je suis plutôt pour.
D'accord.
Et en quoi un lever de drapeau et chanter la Marseillaise, ça favorise le respect du professeur, ce jeu?
Non, c'est moi qui ai rajouté ça, parce que c'était plutôt par rapport à l'uniforme. Plutôt par rapport à l'uniforme.
Non, c'est parce que ça.
Et du coup, les professeurs aussi devraient porter un uniforme.
Ah, bah oui.
Alors, ça dépend des établissements, certains oui, d'autres non.
Peut-être un uniforme pour professeur. Un uniforme pour professeur.
Mais pourquoi pas?
Faut que tout le monde ait un uniforme.
Mais pas tout le temps.
L'uniforme, c'est pas forcément un costard. Ça peut être un t-shirt bleu et un pantalon rouge.
Un polo blanc. Oui, mais enfin, à ce moment-là, ce serait.
Oui, non, c'est bon.
Et puis ça correspondrait pas au goût de chacun.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de porter un t-shirt bleu et un pantalon rouge, pour être tout à fait honnête. Mais bon.
On ira les couleurs après.
Ouais.
Réagir plutôt à ce qu'avait dit Jérémy, pardon. Il pensait que ça allait augmenter réduire les inégalités, du moins. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que tu auras toujours ceux qui ont des chaussures à 150€ et ceux qui les ont à 20€, ou même le stylo, il y en a qui écrivent avec des Bic et il y en a qui écrivent avec des Mont Blanc, enfin peut-être pas au lycée, mais en tout cas des stylos plumes à plusieurs dizaines d'euros. Oui, c'est sûr ça dégage toujours une richesse. C'est comme les lunettes, c'est comme la montre que tu as portée.
Justement, l'argument d'égalité,
ça ne marche pas du coup.
Oui.
Ouais. Après, on pourrait investir dans un beau silo, voilà, plutôt qu'un jeu vidéo.
Je passe le micro à Liam.
Liam. Voilà.
De plus, toujours des moyens colossaux. Rebondir sur les commentaires de Jérémy et Alexandre.
Tout le monde rebondit, comme Madame Cubier. Pardon. Enfin, c'est Madame Cubier. Non, vous avez dit que quand elle était en cours, elle était très dynamique. C'était pour rappeler ça. Et que parfois, elle faisait quelques figures proches de la danse. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais à ça. Mais tous les profs rebondissent. Bah oui, c'est très beau. Ah, Jérémy est fan de Madame Cubier. Spéciale dédicace, Madame Cubier, si vous écoutez. Si tu m'écoutes, je me permets, car c'est une collègue. On lui dira d'écouter le podcast, là elle aura pas le choix, justement.
Bah si, c'est enregistré, enfin j'espère que c'était
enregistré. On lui dira qu'à la dernière minute quasiment de l'heure d'émission, son nom est cité.
Bon, Liam,
on gardera le misère.
Donc ce que je disais, c'est que à la fois je pense que ça enlèvera pas les égalités, mais je pense que ça en enlèvera quand même. Et est-ce que justement ça risque pas un peu d'effacer la personnalité de certains élèves qui sont déjà renfermés sur eux-mêmes dans l'éducation nationale? Je pense que c'est pas forcément une bonne chose, parce
facteur aggravant alors.
Bah oui, tout ça, alors, ça permet pas de s'exprimer en tant que personnalité. On va s'exprimer en tant que lycée, que collège, mais
bon, ça efface pas les individus quand même.
Bah, je pense que
à l'inverse, si tout le monde est habillé pareil, on verra pas justement celui qui est sportswear, décontracte, sportnat, pas sportnat, puisque parfois on dit.
Bah
oui, mais c'est peut-être pas plus mal.
Bah non, c'est bien d'avoir.
Puisque parfois il y a des battles, section, pas section. Ah si, un peu quand même. Seconde avec Sportnat, seconde sans Sportnat. Voilà, faire une émission entière. Donc, on va pas partir là-dessus. Mais
sans leur sarouel, sans leur t-shirt, sans leur tongs.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure par allusion. Oui, ce serait plus vraiment les Sportnat.
La liberté, c'est la peur. Et c'est peut-être, c'est même la perte
la marque de fabrique.
Du
pas que quand même. Il se résume pas à ça. Mais oui, vestimentairement un peu. Si tu as raison. Ils sont moins souvent en pantalon chemise. De toute façon, au lycée du Diou en général. Mais les Sportnat encore moins statistiquement, c'est clair. Ils sont habillés plus décontractés. Mais... Parce que sport et nature, donc les deux combinés invitent à une tenue plus décontractée. Tiadel, pour finir. Et oulala, encore. Il va falloir les manger, les gens.
Alors, est-ce que.
Oui.
Mais oui, non, en fait, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, pour moi, ça n'a pas une grande utilité au niveau du pays entier. Par contre, si dans certains lycées, effectivement, il y a un besoin pour une raison particulière, je pense qu'effectivement, ça doit se régler au cas par cas. Et ça doit.
Quelle raison particulière, parce que si on commence à faire
Par exemple, je sais pas moi.
Dans les dom-toms, c'est déjà des cas particuliers. Bah,
c'est vrai qu'au lycée, dans des lycées où les inégalités, pardon, sont criantes, ou alors dans les lycées où effectivement il y a un vrai problème avec le respect des normes vestimentaires, etc. Là, ça peut se comprendre, et à ce moment-là, il faut voir ça au cas par cas, mais à aucun moment faire. Et d'ailleurs, il y a un candidat qui le propose de donner plus d'autonomie au lycée. Puis je pense que ça fait partie de l'autonomie des lycées de voir ça au cas par cas.
Dans le cadre de l'autonomie.
Voilà, dans le cadre de l'autonomie. Bah, je pense qu'il inclut ça dans le cadre de l'autonomie, j'en sais rien, mais je pense, c'est monsieur Macron, pour ne pas le citer, mais bon. Mais oui.
Qui t'a plus convaincu que madame Le Pen, on a bien compris.
Qui m'a plus convaincu. Non, mais c'est pas. C'est
mais
pas...
déjà, même avant le débat, je pense. Dis-moi si je me trompe.
Oui, déjà avant le débat.
Ça t'a conforté dans ton.
Oui, ça m'a conforté. Oui. Oui.
Antoine. Et Jérémy, vraiment, ce sera le mot de la fin, et on va dire à nos éditeurs qu'on les retrouve le 3 mai, mercredi 3 mai, premier mercredi du mois de mai. Oui.
Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Yam et Alexandre, ce qu'ont dit Yam et Alexandre, par rapport à la destruction de la personnalité. Au contraire, moi, je pense que c'est une bonne chose, justement, que les personnes qui soient stigmatisées par son habillement, par son sa façon de s'habiller. Et ça va justement décloisonner, déstigmatiser certaines personnes qui s'enferment un peu et qui, encore une fois, le fait que ça lime un peu les différences, c'est une bonne chose.
C'est joliment dit, ça lime les différences. J'aurais pas trouvé la métaphore tout seul.
C'est,
ça diminue, efface, édulcore. Alors bon, certains vont dire ce que tu dis, certains vont dire c'est de l'hypocrisie, parce qu'effectivement, dès que la sonnerie retentit, on retrouve... sa chambre luxueuse chez soi, son stylo précité, ou au contraire un crayon à papier, non mais pardon pour la caricature, ou je veux dire on part en vacances pendant un mois parce que nos parents ont les moyens, ou on part pas en vacances parce que nos parents ont pas les moyens. Alors certes pendant la journée on aura eu le même uniforme, mais ça existe.
C'est pour ça que je dis
non,
que...
Non, ce serait triste, mais enfin bon, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes moyens.
C'est pour ça que je dis qu'il faut voir cas par cas.
Par la personnalité, oui, c'est très beau,
mais aussi dans les réseaux sociaux, dans tout ça.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
C'est vraiment hypocrite. Oui. Et...
C'est pour ça qu'il faut voir au cas par cas, à mon avis. Il y a peut-être des endroits où il y en a besoin. Bon.
Bon, mais Antoine, lui, serait pas contre mettre le costume comme Marius.
Que le lycée, c'est un lieu différent du reste de la vie. Enfin, c'est un lieu où justement il ne doit pas y avoir ces inégalités qui. Et qu'une gestion au cas par cas, c'est, je pense que c'est la meilleure solution.
Il n'y a plus de service militaire, ce sera peut-être un sujet prochain, parce qu'il en est beaucoup question dans la campagne aussi. Peut-être ça peut être à la place du service militaire, où tout le monde était habillé pareil. Non, ils n'en ont pas parlé hier, peut-être dans le prochain débat. Pour les sorties, tu voudrais qu'on s'habille tous pareil. Tous en maillot à la mer, ou tous en bonnet au ski. Écoute la question d'Alexandre.
Utile pour les sorties scolaires, pour représenter l'établissement.
D'accord. Oui, d'accord. Comme une marque.
Par contre, du coup, pour les sorties ski, ça va être compliqué.
Oui. Ah non, on fera des combinaisons.
Et les sorties piscine aussi. Ça dépend de la grosseur du maillot, mais on peut écrire beaucoup de choses dessus.
Oui.
Oui, c'est vrai. Oui, Jérémy.
Et du coup, pour finir, je me demandais quel était le rôle de l'école à la base. Donc c'est de on acquiert des connaissances, on s'ouvre au monde.
On en fera une émission toute entière. Oui, c'est vrai, acquérir des connaissances, s'ouvrir
au monde.
Apprendre à devenir un futur citoyen, c'est écrit dans la loi française de l'école.
Et en quoi ça contribue au...
Devenir un esprit libre, réfléchi.
Ah ouais, d'accord. Et du coup, je me demandais en quoi le port de l'uniforme et... Le drapeau, la Marseillaise, ça contribuait à l'éducation des élèves, à ce que doit leur donner l'école.
Le sentiment d'appartenance à un pays, comme disait tout à l'heure Marius, je crois. Et évidemment que dans des périodes de troubles comme en ce moment, c'est aussi une raison qu'on peut discuter, mais qui peut-être pourrait empêcher que certains, ne se sentant pas vraiment français, aillent vers l'ennemi, parce que clairement c'est ça.
Oui, enfin...
Ça suffira peut-être pas.
Oui, je pense que c'est pas parce qu'on chante la... Quand je parlais tout à l'heure de cas par cas, je parlais que de l'uniforme et pas de chanter la Marseillaise, la levée de drapeau, qui à mon avis, c'est une ineptie. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire ça. Honnêtement, je vois pas. Je me sens pas plus français si je chante la Marseillaise ou si je la chante pas tous les matins. Enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'aux États-Unis ça se fasse parce que les États-Unis c'est un très grand pays et que donc quand on habite au fin fond de la Cambrousse, dans le Midwest, effectivement, il faille on puisse chanter parce que c'est une fédération, donc c'est pas pareil. On peut pas comparer les États-Unis à la France. La France est tout petit. Il y a pas de fédération. Il n'y a pas dans les dom-toms, c'est peut-être légèrement différent, mais encore, je pense pas que ça les fasse. Parce que je pense pas que ça règle les problèmes des Guyanais de chanter la Marseillaise tous les matins et de lever le drapeau français. Peut-être que je me trompe.
Bon, on va en rester là. La Guyane, on aurait pu en parler peut-être la prochaine fois, en espérant qu'on n'ait pas en parlé parce que tout ne sera pas réglé, mais que ça ira un peu mieux, que ce sera apaisé. Mais on aurait pu en parler aujourd'hui et plein d'autres sujets. Alors réfléchissez, shootez-vous à l'info, tous chroniqueuses et chroniqueurs de CCC. On se retrouve donc le mercredi 3 mai. On espère cette fois-ci, on va croiser les bras, toucher du bois, en direct, à 12h10. Croiser les bras, non, surtout pas. Et faire réfléchir les cerveaux en ébullition. Merci pour votre participation.
Croiser les doigts.
D'accord, je me suis trompé. Bah oui, croiser les doigts, c'est par superstition, tu connais pas ?
Oui, croiser les doigts, j'ai d'accord. Croiser les bras.
Non, je crois pas.
Oui.
Bonne salut. Journée à toutes, bonne journée à tous. Restez à l'écoute de RDY. Rendez-vous donc le 3 mai, dans le meilleur des cas, 12h10.